Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah.
La recherche d'archives au Mémorial de la Shoah, c'est quelque chose qui nous occupe de manière permanente et de plusieurs manières. Nous organisons à la fois des journées ou des après-midi portes ouvertes où les gens peuvent venir sans rendez-vous pour nous confier leurs documents. Ça se passe en général le mardi après-midi ou à d'autres occasions à des dates particulières. Nous organisons également des collectes en province et nous allons à la rencontre, cette fois-ci, des personnes qui ne se déplacent pas à Paris et en région parisienne, en travaillant notamment avec des relais sur place, des organisations qui sont installées localement, pour toucher cette fois-ci un public provincial ou étranger, puisque nous faisons également ce type de collecte à l'étranger. Et puis la collecte, c'est également par rapport à des thématiques sur lesquelles nous avons l'impression d'être non pas en défaut, mais en manque d'informations. C'est généralement des recherches que nous faisons à l'occasion de la préparation d'expositions ou de commémorations particulières. On peut prendre à l'exemple...
Prenons par exemple la rafle du 12 décembre 1941, qui est une rafle assez méconnue, dont on parle un peu plus ces derniers mois et que l'on qualifie de rafle des notables. En effet, un certain nombre de personnalités de la bourgeoisie, voire de la haute bourgeoisie, ont été arrêtées ce jour-là.
Et bien sûr, cette rafle, on avait moins d'informations et nous avons été chercher les familles des personnes arrêtées lors de cette rafle pour les solliciter, leur demander s'ils avaient des documents qui nous permettraient d'aborder le sujet de manière plus détaillée avec des documents d'archives, des courriers, des photos qui nous permettent d'étayer la réalisation de la rafle et de rappeler bien entendu le sort des personnes. Ce peut être également à l'occasion de la commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv où on va refaire une campagne de recueil de témoignages de témoins du Vel'd'Hiv, à la fois des personnes arrêtées mais également des voisins, toute personne qui aurait pu assister à ce qui s'est passé ces journées des 16 et 17 juillet 1942. Donc la collecte d'archives, c'est en permanence un aller-retour entre les demandes des familles qui nous interrogent sur le devenir de leurs parents, on leur répond, on leur donne les informations dont on dispose, et nous, de manière systématique, on va les interroger également en leur demandant « mais vous avez peut-être des informations complémentaires sur la vie de la personne avant l'arrestation, avant la guerre même, son mode de vie, ses origines, son travail, les activités auxquelles elle a pu participer, toutes ces informations qui sont conservées par les familles et dont nous n'avons pas forcément connaissance dans les archives administratives qui se trouvent au mémorial. Donc c'est un complément chaque fois et un aller-retour permanent. Nous préservons les archives, bien évidemment, pour qu'elles soient utilisées et utilisables le plus longtemps possible. Il faut savoir que nous ne forçons pas les personnes à se déposséder de leurs papiers originaux s'ils n'y tiennent pas, même si la conservation des papiers, c'est notre cœur de métier. Les personnes qui veulent conserver les originaux par devers elles, quand il s'agit d'archives personnelles, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, on va les prendre pour les numériser en haute définition, les conserver si les personnes nous souhaitent nous les déposer, ou alors leur restituer les originaux et nous on conserve une numérisation. Donc c'est déjà un point important à savoir que la conservation passe aujourd'hui par des opérations de numérisation en haute définition, que ce soit des archives papier, des photos, mais également des films et des témoignages audiovisuels ou audio uniquement. La préservation des documents papier, quand on nous confie les originaux, c'est un savoir-faire ancestral. On a des matériaux pour cela. L'important, c'est que les documents ne soient jamais en contact avec des documents chimiques, notamment du plastique. Donc, les personnes qui viennent nous voir avec leurs documents dans des jolis lutins en plastique, alors on les déconseille d'utiliser cette méthode. Il faut les placer dans des papiers, de préférence du papier fait en matériaux neutres, donc chemise en matériaux neutres, boîte carton archive en matériaux neutres également, donc ce sont des matériaux qui coûtent un peu cher, c'est un investissement certain, Et ensuite, le principal moyen de préserver les documents papier qui sont bien souvent écrits sur du mauvais papier, hein, à l'époque, ou parfois au crayon, parfois avec des encres qui ne sont pas très stables, eh bien, c'est d'éviter leur manipulation au maximum. Donc, encore une fois, même si nous avons les originaux, nous numérisons les documents de manière, au moment de la communication, à ne proposer à la communication que les versions numérisées et à ne sortir les originaux que dans un cadre exceptionnel, notamment la présentation dans une exposition ou parce que ça va être filmé pour un documentaire qui va être diffusé à la télé, etc. Donc les documents, la meilleure façon de les préserver, c'est à l'abri de la lumière, bien entendu, avec une hygrométrie contrôlée. Donc ces documents se trouvent dans les réserves, les magasins d'archives du Mémorial de la Shoah, dans des chemises et papier et carton neutre, à l'abri de la lumière, encore une fois, hygrométrie et température stable, et le minimum de communication, de manipulation des documents originaux, c'est ce qui fait que la préservation des documents va perdurer le plus longtemps possible. Le terme de détective de la mémoire, effectivement, peut s'appliquer à nous parce que bien souvent, on va nous confier Alors, quand on nous confie des documents, parfois, c'est des familles plus ou moins éloignées. On va avoir une lettre signée d'un seul prénom, qui bien souvent, d'ailleurs, est un prénom d'usage et pas le prénom officiel qui est porté sur les papiers. Donc, on va utiliser toutes les ressources à notre disposition pour essayer de déterminer notamment quel est l'auteur d'un courrier en fonction de la date, du lieu d'expédition, souvent du lieu d'internement, la destination également. Heureusement, de plus en plus d'archives sont accessibles en ligne. Je pense notamment aux archives publiques de l'état civil, les actes de naissance, voire les actes de décès et les actes de les recensements également qui nous sont très utiles. On essaye vraiment de reconstituer l'identité des personnes qui apparaissent dans les documents. Et puis, encore une fois, il y a certains documents qui nous manquent et on va aller les chercher. Donc, un cas que j'ai eu récemment, c'est justement un monsieur qui était cité dans la lettre d'un autre interné du camp de Compiègne. Il était question d'un monsieur Stelesco, donc c'est un nom qui n'était pas très commun, que je ne trouvais pas dans les listes de déportation. Et donc, en menant une petite enquête qui a duré quelques jours, par le biais de son gendre, j'ai pu retrouver les petites filles de ce monsieur Stelesco qui avait effectivement été interné à Compiègne, libéré en très mauvaise santé, et du coup hospitalisé et mort dans les jours qui ont suivi sa libération. Eh bien, les petites filles que j'ai finalement contactées via les réseaux sociaux, parce que ça aussi a une nouveauté qui nous permet de toucher un public qui ne nous connaît pas forcément, eh bien, j'ai retrouvé les petites filles qui avaient des lettres écrites par leur grand-père alors qu'il était au camp de Compiègne. Et depuis, elles nous ont apporté les lettres et nous les avons enregistrées et ajoutées à nos collections. Donc voilà, ça fait partie des belles histoires, mais le hasard parfois, la découverte d'un brocanteur sur un marché qui va nous appeler, parce qu'heureusement, le nom du Mémorial de la Shoah est aujourd'hui un peu plus connu et plus répandu qu'il ne l'était il y a 10, 20, 30 ans, et il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal, donc il y a des gens qui nous apportent spontanément les documents et les informations, et puis nous on cherche à compléter et à mettre en relation aussi les familles entre elles. L'enrichissement du fonds documentaire du mémorial, c'est quelque chose qui a toujours animé les membres du mémorial depuis sa création. La création du mémorial repose sur la collecte des archives. Pourquoi ? Parce que les archives, ce sont autant de preuves pour faire valoir les droits, d'une part. C'était une des motivations des fondateurs du mémorial, faire valoir les droits des victimes. Pour prouver qu'on a été victime d'une spoliation ou d'un internement, il faut prouver, document à l'appui, que cela a eu lieu. C'est également un engagement vis-à-vis des personnes disparues, en montrant les lettres que ces personnes ont écrites depuis les camps d'internement, en montrant leurs photos, ça rappelle que ces personnes ont existé, ce ne sont pas seulement des noms sur des listes qu'on pourrait dire inventés de toutes pièces. quand il raconte ces personnes dans la dernière lettre, une lettre jetée du train, les conditions dans lesquelles ils sont déportés, c'est aussi une preuve de ce qui s'est réellement passé. Quelle est la réalité de la déportation? Le télégramme, alors pour les documents plus administratifs, rappelons l'existence du Telex Visieux qui a permis l'accusation de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité, c'est aussi un document qui est conservé dans nos archives, et le fait de pouvoir présenter l'original lors du procès, c'est ce qui a permis que le procès se tienne, ce procès pour crime contre l'humanité. Il y a eu un véritable enjeu de présenter l'original du document et non pas simplement une reproduction qui circulait à l'époque. Donc la collecte des documents, l'archive, c'est bien entendu la trace de l'existence d'une personne, mais c'est un élément de preuve indiscutable. Et c'est pour ça que nous collecterons et nous continuerons à collecter des documents tout aussi longtemps que le mémorial existera.